Mes chers amis, vous devez savoir comme moi que beaucoup de convertis interrogés sur les médias chrétiens au sujet de leur conversion disent une chose étrange. Ils ont rencontré Dieu. Ils ont rencontré Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Et pourquoi, pour expliquer l'expérience qui leur a fait connaître et aimer Dieu, utilisent-ils, sans le savoir, le langage des mystiques? Le langage des saints mystiques nous trouble parfois. En effet, quand ces saints sont obligés de décrire ce qui se passe en eux lorsque leur âme atteint de hauts degrés dans la contemplation mystique, les expressions des uns et des autres se rejoignent. Mais curieusement, ils ne savent pas toujours s'expliquer, et tous avouent qu'ils n'ont pas les mots pour expliquer ce que leurs supérieurs leur ont demandé de décrire. Nous allons donc essayer de comprendre un peu mieux ce que ces saints mystiques nous disent. Tout d'abord, considérons l'origine du langage humain. Voici un objet courant que tout le monde connaît, peut voir et toucher. On se le montre par des gestes, puis un jour, un mot surgit. Il n'y a plus besoin de faire des gestes, il suffit de dire ce mot et tout le monde comprend et sait de quoi l'on parle. On ne crée des mots qu'à partir de ce que beaucoup de personnes connaissent parfaitement et concrètement. En ce qui concerne les expériences mystiques, c'est très différent. Ces expériences que l'on a longtemps considérées comme exceptionnelles semblent, curieusement, devenir plus courantes, surtout pour ceux que Dieu veut convertir ou ramener à lui. Pourtant, peu de gens savent de quoi il s'agit en vérité. Il n'y a aucun constat concret concernant la société courante dont nous sommes. Il n'y a donc pas de mots pour exprimer un tel fait, car même si un mystique inventait un mot, personne ne comprendrait de quoi il s'agit. On comprend alors que tel ou tel mystique est renoncé à s'expliquer, car il n'a pas de mots pour le dire. Prenons l'exemple de Jean de Rosbrock, ce grand et saint mystique flamand du XIVe siècle. Il a essayé de faire comprendre en quoi consistait une expérience mystique authentique. Mais pour réussir à se faire comprendre, il utilisa des mots courants qu'il tenta d'adapter aux expériences inexprimables de l'union à Dieu ou du bonheur en Dieu. Résultat, Rosbrock aboutit à l'utilisation de mots courants qui restent cependant relativement vagues ou imprécis et qui peuvent parfois troubler le lecteur. Il en est souvent de même pour les autres mystiques reconnus par l'Église. Revenons à Rosbrock dont Thérèse d'Avila s'inspirera probablement. Ainsi, Rosbrock ne peut pas préciser ce qu'est l'union à Dieu, le bonheur en Dieu. Alors, il dit que celui qui arrive, par exemple, au sixième degré de l'échelle mystique et au-delà, s'écoule dans la substance de Dieu, se perd et se fond dans son essence pour s'y dissoudre. Incontestablement, cela reste flou, voire inquiétant. Si l'âme se dissout en Dieu, dans l'essence de Dieu, que reste-t-il de son individualité, de sa personnalité? On pense un peu aux bouddhistes qui, lorsqu'ils ont atteint le nirvana, se perdent dans le grand tout dont ils ne savent d'ailleurs à peu près rien. De plus, cela est contraire à notre foi chrétienne qui présente un Dieu personnel. Certains mystiques, comme sainte Thérèse de Lisieux, ont pris pour expliquer l'union à Dieu l'exemple d'une goutte d'eau qui se perd dans l'océan. Mais la goutte d'eau disparaît et il est impossible de la retrouver. Tout cela est également très inquiétant. Et nous nous prenons à avoir peur de la mort qui ne serait que le passage vers la dissolution de notre être personnel. Nous nous perdons, nous butons sur toutes ces questions. À la limite, les mystiques nous épouvanteraient. Nous, les hommes ordinaires, nous avons besoin de concret et les abstractions des mystiques, abstractions inévitables, nous gênent. Heureusement, voici que curieusement, nos esprits sont de nouveau orientés vers la science moderne. Reprenons l'exemple de l'océan, de la goutte et de l'eau. La goutte d'eau, ce n'est rien pour l'océan. Et pourtant, dans l'océan, il n'y a que des gouttes d'eau qui peuvent même donner la vie. Il y a des milliards de gouttes d'eau dans un océan. Elles semblent toutes fondues entre elles. Mais qu'est-ce qu'une goutte d'eau? Une goutte d'eau, c'est un petit ensemble de molécules toutes identiques, constituées chacune d'hydrogène et d'oxygène. Malgré les apparences, chaque molécule d'eau constituée de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène, et dont la formule rappelle cette composition, H2O, chaque molécule d'eau est une entité en elle-même, une entité indépendante que l'on peut séparer des autres, notamment lors des changements d'état physique, l'évaporation par exemple. Certes, l'homme peut, dans certains cas, casser l'eau. Mais il doit pour cela utiliser des forces spécifiques, l'électricité par exemple, pour briser une molécule et réaliser ainsi une électrolyse. Mais placée dans des conditions normales, l'eau reste toujours de l'eau, constituée de molécules toutes semblables, mais indépendantes les unes des autres. Immédiatement, nous réagissons. Qu'est-ce que cela a à voir avec les états mystiques ? Nous avons vu précédemment que l'homme ne peut s'exprimer qu'en utilisant des mots ou des concepts qu'il connaît. À l'époque du grand mystique flamand Jean de Reusbrock, qui vécut au XIVe siècle, on ne connaissait que peu de choses concernant la chimie. D'ailleurs, on ne parlait que d'alchimie, et les alchimistes étaient plus ou moins considérés comme des sorciers. Par ailleurs, Reusbrock ne pouvait pas utiliser avec précision les mots de molécules ou d'atomes, encore inconnus. Il ne pouvait mettre en œuvre que des concepts abstraits, que seuls quelques rares mystiques privilégiés pouvaient comprendre, parce qu'ils les avaient expérimentés. La foule de tous les autres hommes restait sur sa faim, et nous aussi. Mais nous allons essayer, grâce à l'eau, de comprendre au moins une petite partie de ce que Reusbrock et tant de mystiques veulent nous enseigner. Pour cela, nous devons faire un effort et essayer de nous mettre à l'échelle des infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, et de ce que j'appelle l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est-à-dire de l'infinie petitesse de ce qui est déjà infiniment petit. Tiens, la science moderne serait-elle mystique ? Considérons le cosmos. Si nous nous plaçons à l'échelle du cosmos, nous nous apercevons vite que, dans la création, un homme ce n'est rien. Absolument rien. Et pourtant, la science nous révèle qu'un homme, c'est aussi un étrange et complexe microcosme. Maintenant, en imagination, mettons-nous à l'échelle de Dieu. L'homme n'est plus qu'un infiniment, infiniment petit, perdu dans l'essence de Dieu. Comme des gouttes d'eau dans l'océan, il s'écoule en Dieu, il se fond en Dieu, comme une molécule d'eau dans l'océan. Apparemment, il est invisible, imperceptible, véritablement perdu. Mais il existe et il est indépendant. Chaque homme est une entité unique et qui plus est pensante et aimée de Dieu, son créateur. Revenons à notre échelle terrestre. De même que chaque homme, à l'échelle de Dieu, se fond en Dieu, les âmes pures se fondent en Dieu, s'écoulent dans l'essence de Dieu, car leur essence est l'essence même de Dieu. Elles sont créatures. Mes créatures aimées de Dieu, personnes uniques, vivantes, destinées à la construction du grand œuvre de Dieu, peut-être le corps mystique du Christ. Certes, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour comprendre ce que Reusbrock appelle l'union à Dieu. Mais, en pensant aux molécules d'eau, nous avançons. Vive la chimie moderne. Et pour clore cette réflexion, je voudrais m'adresser aux prêtres. Notre monde aujourd'hui a plus que jamais besoin de prêtres, et de prêtres très saints. Souvent, nos prêtres ne savent plus exprimer ce que leurs fidèles attendent. La preuve de l'existence de Dieu, la vie en Dieu, l'union à Dieu. Tout cela est très difficile à concevoir ou à exprimer. Aussi faudrait-il que, de temps en temps, nos prêtres s'adressent à des savants, à des scientifiques, à des spécialistes de l'astronomie, de la chimie ou de la physique. Ces savants pourraient leur donner quelques images faciles à exprimer, donc à comprendre. Et ces exemples simples pourraient s'appliquer aux relations que les hommes peuvent avoir avec Dieu. Voici que nous découvrons l'incroyable unicité de Dieu, que nous appelons l'unité de Dieu dans sa multiplicité. Incroyable. Aujourd'hui, la science moderne peut nous expliquer la mystique et nous révéler Dieu. Étonnante science moderne, comme nous sommes loin du XVIIe siècle qui attendait de la science des explications pour nier Dieu. Voici que le développement stupéfiant de cette même science nous révèle Dieu jusque dans ses profondeurs. Quel émerveillement! Mes amis, vous savez tout comme moi que depuis très longtemps, on met en garde les chrétiens contre les mystiques. Pourquoi? Voulait-on les éloigner de Dieu? Par moments, j'ai envie que tous nos prêtres soient d'abord des scientifiques avant de se donner à Dieu. Ainsi, ils pourraient montrer combien la science révèle Dieu et son amour pour les hommes. Mes propos m'étonnent. La science moderne serait-elle mystique ?